Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je me réjouis de vous retrouver encore une fois pour marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Je vous convie cette semaine à une exploration de la fascinante relation entre la marche et la respiration qui, nous le verrons, peut nous mener très loin dans la recherche et le maintien de notre santé mentale, physique et spirituelle. En deux mots, du bien-être. Notre guide est Benoît Tremblay, un inhalothérapeute hors norme dont la curiosité et l'engagement social l'ont dirigé vers l'enseignement et l'accompagnement en santé respiratoire. Comme il le dit si bien, il devient nécessaire, voire urgent, de remettre le compteur à zéro et d'œuvrer pour une véritable écologie de la santé respiratoire. Selon lui, la marche et la respiration sont ni plus ni moins que deux frères jumeaux sur le chemin d'une vie bien vécue. En deuxième partie d'épisode, Michel Cousinat-Baudet, ostéopathe et entraîneur postural, nous indique dans sa chronique « Le corps en marche » comment une marche de courte durée, pratiquée régulièrement, peut considérablement améliorer notre santé physique et mentale. Une option très pratique pour les personnes qui peinent à trouver le temps de faire de l'exercice. Alors, bonne écoute et bonne respiration. Alors bonjour Benoît et merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour nous parler d'un sujet fascinant, la respiration.
Bonjour Denis, alors je vous remercie de cette invitation, ça me fait plaisir d'être ici avec vous pour partager avec vous et vos auditeurs ces fonctions qui sont respirer et marcher qui sont si importantes pour chacun de nous.
Pour la santé physique, mentale.
Voilà, le bien-être global.
Voilà. Alors, Benoît, j'ai été fasciné par votre parcours qui vous a amené à la profession que vous exercez aujourd'hui, celle d'inhalothérapeute. Parlez-nous un peu comment vous avez eu la piqûre pour ce sujet.
En fait, c'est le cas de le dire, une piqûre, j'ai reçu beaucoup de piqûres parce que je souffrais de maladies pulmonaires plus jeune, en fait.
Très jeune.
Très, très jeune. Et à l'âge de 10 ans, j'ai eu vraiment des grands problèmes où j'ai presque failli mourir. Mmh. Et moi, je me dirigeais, paradoxalement, en informatique. J'ai toujours rêvé de faire de l'informatique et je peine maintenant à ouvrir un ordinateur. Mais juste avant de faire mon inscription pour le cégep, en fait, j'ai revu un des appareils qui m'avait permis de survivre à l'époque. Et tout de suite, il y a un changement qui s'est fait. Et là, j'ai décidé de m'inscrire en inhalothérapie à ce moment-là.
Et donc, cet appareil, c'était quoi?
C'était un appareil qu'on appelait un Bird. C'était un appareil respiratoire, en fait.
Oui. Donc, c'est ce qui a lancé votre carrière, votre passion.
C'est ce qui a lancé ma carrière, ma passion. Alors, je n'imaginais pas jusqu'où cela me mènerait aujourd'hui, bien sûr.
Alors, parlez-nous de vos études, justement, dans ce domaine.
Alors, mes études, je les ai faites à Montréal, au Collège Rosemont. Et dès mon premier cours, j'ai eu un prof passionné qui revenait de France. On n'a pas beaucoup parlé de pharmacologie. Il nous parlait constamment de sa passion pour la rééducation respiratoire. Et ça a été là la piqûre. Immédiatement, j'ai dit oui, c'est ça.
Vous aviez quel âge?
J'avais 18 ans.
OK.
18 oui, oui. ans à ce moment-là. Et là, j'ai dit, c'est ça que je vais faire. J'ai la piqûre. J'aurais pas besoin de rappel. Je viens de tomber dans la marmite. Voilà.
Formidable.
Alors, j'ai goûté à la potion magique.
Et la prochaine étape, c'était quoi?
Bon, en fait, j'ai poursuivi. À la fin de la session, déjà, je suis allé en France, au lieu pour faire un stage d'observation. Et là, j'ai été enchanté des résultats que ça avait sur des êtres humains pour rendre leur bien-être. Même des gens très malades pouvaient quand même sourire et apprécier la vie. Donc, je suis revenu. Et là, bien en forme, et j'ai déchanté un peu parce qu'on ne pouvait pas pratiquer ça à cette époque-là. Mais quand même, j'ai poursuivi et ça a continuellement évolué.
Et vous me parliez d'une expression, la démarche respiratoire. Et vous avez mentionné le dictionnaire du Petit Robert, mais c'est quoi la démarche respiratoire?
En fait, oui, je suis parti de du petit dictionnaire qui dit que la démarche, c'est le motif du mouvement des membres des animaux pendant leur déplacement. Alors, il y a différents types de démarches en fonction de la vitesse, du terrain et des besoins énergétiques, de conservation d'énergie.
Oui.
Alors ça, c'est le mot clé, conservation d'énergie chez l'être humain, pour la planète, pour l'environnement. Comment respirer et marcher avec le moins de dépenses d'énergie, et c'est là que vient le bien-être, en fait.
Le plus efficacement
le
possible.
Le plus efficacement possible. Alors ça, c'était pour les animaux. On a qu'à ajouter à ça la personnalité respiratoire de chaque être humain dans toutes ses dimensions.
Oui.
Et là, on en arrive à une façon de respirer et de marcher qui peut être différente et bienveillante.
Alors, au retour, vous avez complété vos études. Vous avez quand même pratiqué un peu? Vous pouviez pratiquer un peu?
Oui. Bien, autant de fois que je pouvais pratiquer, les premières fois, je faisais ça très discrètement. Hein, mm-hmm. Et on se rendait compte que les résultats étaient très, très bons. Mais j'ai quand même pratiqué beaucoup en urgence, aux soins intensifs, en anesthésie. Mais c'est quand j'ai pu pratiquer en fonction respiratoire pour évaluer les volumes pulmonaires que là, j'ai vu la différence. Que lorsqu'on libère une respiration et qu'on l'associe à une activité comme la marche, on peut améliorer l'équilibre entre les différents volumes pulmonaires et aller chercher le potentiel chez chaque être humain.
Et cela alimente votre passion.
Et cela, c'était... j'avais le feu à ma passion avec ça, un feu qui ne s'est jamais éteint.
Et vous aviez des patients heureux. Ça aide beaucoup.
Et des patients heureux. Oui. Et des familles heureuses.
Et des familles, oui.
Et des familles
heureuses. Parce que si on respire mieux, en fait, si on améliore notre capacité pulmonaire, on respire mieux, bien, ça rayonne sur la famille, le milieu social, les amis et tout quand même.
Absolument.
Là. C'est le bien-être pour tout le monde, un peu plus.
C'est contagieux.
Ah, bon.
C'est contagieux.
Bonne expression, bonne expression. Alors, Benoît, on vient un peu au vif du sujet. C'est quoi la respiration, là, de façon simple, mécanique? Comment ça se passe, la respiration?
Vous parlez évidemment de la respiration mécanique, qui est quand même reliée à l'émotionnel, au mental. Et là, je vais te donner peut-être l'idéal de cette respiration-là.
Oui, d'accord.
Parce qu'elle est libre, naturelle. En fait, à chaque inspiration, ça devrait être tout le tronc, en fait, des clavicules jusqu'au pubis, à 360 degrés. Donc, tout le tronc qui se soulève à l'inspiration et qui revient au point de départ, à l'expiration.
Oui.
Sans qu'on ait à forcer, parce que la respiration, en théorie, c'est automatique.
C'est automatique, oui. Comme d'autres fonctions du corps, oui.
En théorie. Maintenant, on voit avec la propagation de l'apnée du sommeil que c'est de moins en moins vrai. Mais il reste que cette respiration libre permet, en même temps que le tronc est libre, de laisser toute la liberté aux bras et aux jambes et à la posture de la tête pour, évidemment, créer ce lien indissociable avec la marche.
Ah oui, parce qu'une bonne respiration, le tronc dégagé, évidemment, ça permet une bonne posture. Et le libre mouvement des membres, les jambes, les bras, la nuque, j'imagine, la tête, tout fonctionne mieux.
Tout fonctionne mieux. Le diaphragme peut se mouvoir selon les besoins de l'activité et non pas de forcer pour essayer de respirer contre nos propres tensions, en fait.
Ah oui, oui, parce que le stress, évidemment, influe beaucoup, là. La rigidité du corps influe énormément sur la capacité de pouvoir bien respirer.
Voilà, alors...
C'est intéressant ce que vous disiez. La respiration, c'est un geste automatique, mais c'est aussi volontaire, en ce sens qu'on peut contrôler consciemment notre respiration. Je pense à la méditation ou autre chose.
Voilà, d'un point de vue méditatif, on peut arriver à avoir un certain contrôle, bien sûr, progressif, dans les activités physiques aussi. Souvent, si on se sent un peu stressé, ça nous permet de forcer contre nos propres tensions pour réussir à respirer aussi. Voilà.
Oui, oui.
Alors, on peut le contrôler dans différentes situations, mais le mieux à la base, c'est qu'une fois qu'on fait du mieux possible pour contrôler, c'est de la laisser faire aussi au maximum. C'est-à-dire, moins on va essayer de contrôler, meilleure elle sera.
D'accord.
Et meilleure sera la marche.
Oui. En faisant les bons gestes, j'imagine. Mais justement, comment on fait pour bien respirer? Comment on peut avoir ce que vous venez de décrire, je pense, une respiration optimale ou naturelle? Comment on fait?
Comment on fait? Bah, voilà. D'abord, en prendre conscience, savoir où sont nos tensions, nos comportements ou nos réflexes qui amènent des tensions de stress.
Oui.
Ressentir aussi. Il faut essayer de ressentir comment ça se passe. Et prendre le temps, tout simplement, une fois qu'on a pris cette conscience-là, ça prend quelques connaissances aussi.
Ah oui.
Je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais la meilleure respiration pour stabiliser la posture et le corps, c'est la respiration dorsale, basse. C'est-à-dire que le poumon peut descendre dans le dos, vers le sacrum, vers le bassin, vers le plancher pelvien. Et ça, c'est encore très peu connu.
Et ça, on peut le provoquer, là, avec des exercices, en étant conscient, là, ça?
Avec des exercices qui permettent de libérer la respiration, de se poser.
Oui.
On peut arriver en sachant, et c'est là que la respiration volontaire est utile. On va diriger notre respiration pour trouver un équilibre entre notre respiration dorsale et la respiration qu'on appelle plus ou moins justement là, abdominale. En fait, c'est un équilibre entre l'arrière et le devant qui crée une respiration libre.
Oui, oui. Alors, j'aime bien votre idée d'être conscient de la respiration. On s'arrête un instant et on réfléchit, on sent la respiration, l'air qui entre et l'air qui sort. C'est un peu ce que vous dites, là.
Oui, c'est une étape que plusieurs réussissent à faire du premier coup de cette façon-là. Mm-hmm. Maintenant, pour d'autres, ils n'arrivent pas vraiment à ressentir. L'être humain ressent plus facilement des tensions, des douleurs.
Mm-hmm.
Des inconforts. Voilà. Alors, ça peut être un apprentissage déjà que de pouvoir ressentir notre respiration parce que... Et après, il y a un piège là-dedans parce qu'on peut être bien dans nos tensions aussi.
Voilà. Oui.
Alors, c'est tout ça qu'on doit réapprendre et c'est lorsqu'on commence à rééquilibrer ces tensions qui font partie de notre vie quotidienne.
Alors, quand vous dites « nous sommes conscients de la respiration », c'est qu'en respirant, nous sentons cette tension dans le corps qui, on l'espère, diminue un peu si on respire bien, c'est ça? Là, c'est un peu le lâcher-prise du corps en respirant.
C'est le lâcher-prise. On peut le faire mentalement, mais on a de plus en plus besoin de faire certains exercices qui sont très, très courts, là, mais pour poser les différentes parties du corps et en arriver à ce que la respiration se fasse correctement d'elle-même. Maintenant, c'est important de comprendre aussi, et je l'ai appris au fil de ma carrière, que ce qu'on peut libérer en position couchée ne demeurera pas nécessairement lorsqu'on s'assoit,
qu'on se lève ou qu'on marche. Oui.
Alors, on a besoin de répéter, de mieux comprendre ce qui se passe. Ce matin, je regardais, là, il y a un coureur, un jogger qui m'a dépassé et courait, bon, les pieds, c'était parfait au sol, sauf qu'il y avait un mouvement des bras qui était toujours tourné vers la gauche. Alors, ce mouvement du haut du corps, à force de se répéter, va créer un blocage, toute une rotation dans le corps.
Au niveau de la respiration.
Au niveau de la respiration, ça va bloquer.
Ah oui.
Éventuellement.
Oui, oui. Oui, oui.
Alors, si on détecte ça, déjà, on peut faire quelques exercices très simples avant de courir ou pendant... Oui. Et le tour sera joué.
Ben c'est ça, notre coureur, s'il était conscient, ou lorsqu'il deviendra conscient, il pourra corriger son mouvement et mieux respirer.
Absolument.
Mieux respirer. On va revenir tout à l'heure aux exercices, mais il y a une question que je me pose. J'ai trouvé la réponse, mais je la pose aussi pour nos auditeurs et des amis et des connaissances que je rencontre. Est-ce qu'on doit respirer par le nez? Par la bouche, les deux, c'est quoi la meilleure façon de respirer?
Si on revient à la respiration automatique, là, libre, bon, elle se ferait naturellement par le nez et l'expiration selon le volume que l'on prend, quantité d'air, soit par le nez, soit par la bouche.
OK.
Maintenant, il y a toutes sortes de difficultés, hein, des déviations de la cloison nasale, des nez congestionnés, bon, etc. Moi, je dis souvent que la respiration devrait être silencieuse.
Silencieuse.
Silencieuse par le nez. Les gens forcent beaucoup trop maintenant pour essayer de forcer par le nez.
Et pourquoi on force trop? Est-ce que c'est la rigidité, encore une fois?
C'est la rigidité du corps,
oui,
qui oblige à forcer pour respirer.
Oui.
Et l'étape suivante, ben, les gens n'y arrivent plus. Alors là, ils sont obligés d'inspirer par la bouche à ce moment-là.
Ah,
donc,
d'accord.
C'est une compensation pour les tensions.
Parce qu'on a lu dans les journaux, en fait, régulièrement, que les Canadiens, ou en fait peut-être les Occidentaux, respirent davantage par la bouche. Et c'est un phénomène qui est en croissance, je pense.
Oui. Plus la société sera tendue, plus elle devra forcer pour réussir à inspirer. À ce moment-là, en le sachant, on peut juste, en détendant, en rééquilibrant le corps, encore la mâchoire, réussir à enlever les tensions,
oui,
qui empêchent de respirer normalement par le nez. Il y a des techniques qui sont employées. Hein. Les gens se mettent 10 échelons sur la bouche la nuit, ou même pour courir un marathon. Hein. Bon.
Même pour courir?
Ah oui. Et bon, c'est bien parce que ça permet de le faire, mais je crois que c'est pas plus normal ça. C'est pas plus sain que d'avoir un appareil la nuit là, pour dormir.
Mm-hmm.
Alors
mm-hmm.
Oui, c'est une compensation, c'est parfait.
Oui.
C'est là que la conscience de la respiration est importante.
Oui.
De comprendre que c'est la descente du diaphragme sur l'abdomen, donc
oui,
dans le dos et en avant, qui
oui,
crée une pression négative.
D'accord.
Et qui fait que le nez ne devrait être qu'un tuyau, que deux petits tuyaux,
mm-hmm,
qui permettent, oui, de réchauffer, de filtrer, humidifier et
oui,
produire du NO aussi là, pour faciliter l'oxygénation.
Oui.
Mais si ça se faisait tout seul, le diaphragme suffit, lui, à faire respirer par le nez.
Intéressant.
Alors,
intéressant,
c'est important de l'ouvrir. C'est important de savoir que dès que le diaphragme descend, l'inspiration, les côtes doivent ouvrir sur les côtés, en avant un peu, et dans le dos,
mm-hmm,
et dans le dos.
Oui, tout le tronc, en fait.
Ah,
là.
Tout le tronc, et c'est ce qui fait que tout le tronc va se soulever pour un volume qui sera adapté à notre activité.
Mm-hmm.
Pourquoi? Parce que maintenant, les gens, en forçant, l'effort va générer deux possibilités. Il y a des gens qui vont respirer trop, qui sont toujours en hyperventilation.
Oui.
Et d'autres qui seront toujours en hypoventilation, ne respireront pas suffisamment.
Oui.
En partant du fait que tu ne respires pas suffisamment, là, tu vas te mettre à hyperventiler pour compenser et le cycle est parti d'un à l'autre. Jusqu'à temps, ce qu'on voit de plus en plus, là, des jeunes, de plus en plus des jeunes, je viens d'en voir un là, de 14 ans, 15 ans, 18 ans, deviennent complètement bloqués dans leur respiration.
Mmh. Encore une fois, c'est le stress, j'imagine, l'anxiété, peut-être autre chose. Là.
Stress,
ouais,
anxiété, la vie, quoi, qui va beaucoup trop rapidement.
Oui, oui, oui. J'aimerais résumer cet aspect pour dire qu'une respiration optimale, naturelle, se fait par le nez et que le corps est détendu. C'est ce qui provoque, c'est ce qui nous amène à respirer de façon très naturelle.
Voilà.
Est-ce que c'est un bon résumé?
C'est un bon résumé, en autant que l'on comprenne bien qu'être détendu, ce n'est pas être affaissé.
Ah oui,
voilà,
oui, d'accord.
Ça, c'est
important.
C'est
oui,
très important de souligner ça. Mm-hmm. On a toujours un tonus musculaire suffisant pour chaque activité.
Est-ce qu'il y a des façons, justement, et encore au niveau de la respiration volontaire, on peut quand même contrôler, on peut quand même respirer différemment selon l'activité?
Oui, il y a des techniques en fait spécifiques, que ce
oui,
soit pour le chant, que ce soit pour le yoga, seulement pour
la méditation.
La méditation, tout... pour
d'accord,
parler. Bon, alors
oui,
là, on parle de techniques propres à une activité.
Oui.
Moi, là où on intervient pour libérer le souffle, en fait, c'est avant.
Oui,
si on
d'accord,
libère la respiration la plus naturelle, les techniques à ce moment-là vont être potentialisées, elles seront plus efficaces et plus facilement.
Mm-hmm.
Alors, lorsque oui, je travaille avec un chanteur, une évaluation, alors on commence, le chanteur après peut aller chercher ses appuis parce que ses appuis sont disponibles
oui,
parce que le corps est libre. Oui. Et l'esprit est libre.
Et l'esprit.
Aussi. Et
c'est
l'émotion
ça.
Aussi.
Oui, oui. Voilà. Ah oui. Tout va de pair. Là.
Tout va de pair.
Oui, oui. Alors, dans quelques minutes, nous allons parler de la marche et de la respiration. Mais j'aimerais vous entendre parler, en fait, nous dire quels sont les bienfaits, justement, d'une bonne respiration. Que vous marchiez ou non, en fait, au sens le plus neutre, quels sont les bienfaits d'une bonne respiration?
Les bienfaits d'une bonne respiration, c'est d'être présent, c'est de se sentir libre, c'est de ne pas être dérangé ou bousculé s'il y a une petite douleur qui apparaît, s'il y a quelque chose qui nous dérange. Ça nous amène, symboliquement, on pourrait dire, à être zen, en fait.
Ah oui.
À être
oui.
un peu dans une sorte de joie, une sorte d'appréciation de la vie.
Dans le moment présent.
Dans le moment présent. Oui. Si on la perd, bien sûr, on peut quand même se fâcher, être frustré, mais ça revient plus vite, le calme revient beaucoup plus rapidement. Alors, c'est de la joie, c'est de la liberté, c'est un potentiel créatif qui vient plus facilement.
Ah oui, oui. En étant conscient de notre respiration, ça nous amène à cet état, justement.
Tout ça, ça nous fait avoir un meilleur sommeil, plus de récupération.
Réduction de l'anxiété, réduction du stress.
Voilà, oui. Être capable d'être bien dans sa peau. Hein, voilà.
Oui, oui.
Bien dans sa peau pour être capable d'aller vers les autres, hein, comme on disait. Et comme je disais, laisser les autres venir à nous aussi.
Oui, oui, oui. Y a une expression qui me vient. On devient un peu maître de notre temps plutôt que d'être esclave des modes de fonctionnement qui est complètement ahuri maintenant. Là. On maîtrise, en fait, le
temps. On maîtrise dans le sens de, bien-être. Bien-être avec là où on est. On peut être au travail dans un climat très difficile et s'y sentir bien quand même, être moins affecté.
Oui, oui. Et qui dit bien-être, c'est aussi la dimension spirituelle, j'imagine.
La dimension spirituelle en fait partie. Hein?
Oui.
Le spirit, l'esprit, le pneuma, spiritus, tout ça, ça veut dire esprit et souffle, âme.
Oui. Oui. Donc, les bienfaits, globalement, d'une bonne respiration, le bien-être physique, mental, spirituel, global, dans le fond.
C'est vraiment global. Et pour moi, le mot spirituel, c'est comment mon souffle, comment je vis mon souffle en relation avec les gens. C'est un peu ça, comment je peux être bienveillant pour les autres. Et ça fait partie.
Il y a une autre question que j'aimerais aborder, c'est la prévention, parce que la prévention, si la respiration nous amène au bien-être, c'est une question aussi de prévention. Plutôt que de guérir des maladies, on peut prévenir grâce à une bonne respiration.
Absolument. C'est vraiment le fondement de la vie. La respiration a un impact sur le bien-être physique, sur le bien-être mental. Si on respire bien, si je prends par exemple le cas des gens qui ont des maladies pulmonaires.
Oui.
En faisant de la prévention, on ne guérit pas nécessairement la maladie physiquement, mais on guérit l'être humain, en fait.
Oui.
Parce que si on évite que cette personne-là aille aux urgences, soit hospitalisée, aille aux soins intensifs, ça, c'est une prévention, disons, secondaire.
Oui.
Si on commençait plus jeune, plus jeune, chez l'enfant, en famille, à l'école, un peu partout, il y aurait moins de stress.
Apprendre à respirer à l'école. Tiens, j'aime bien.
Apprendre à respirer, à se libérer dès le départ, à apprendre en famille, dans les sports. Et ça peut être un point commun pour créer un avenir à nos jeunes, les rendre moins anxieux et déjà faire du bien actuellement.
Et rendre le monde meilleur.
Il faut rêver,
Mais oui.
C'est comme ça que les rêves finissent par se concrétiser aussi.
Alors, Benoît, nous allons prendre une pause musicale et au retour, nous allons parler de marche et de respiration. Nous sommes en compagnie de Benoît Tremblay, inhalothérapeute. Nous discutons de marche et de respiration. Alors Benoît, justement, marche, respiration, Il y a plusieurs sortes de marches, la marche urbaine, la marche en montagne, les randonnées du genre Compostelle. Est-ce que la marche et la respiration s'ajustent à ce moment-là? Est-ce que la respiration est un peu différente? Comment on pourrait peut-être aborder le sujet?
Je crois qu'on pourrait commencer à la base. Hein. La meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre. Voilà.
Bon.
Mais si je dis ça, c'est parce que c'est vraiment le point de départ.
Oui.
C'est déjà de marcher un peu.
Voilà. Oui.
Avant de savoir des techniques, tout, on marche. Déjà là, ça apporte un grand bienfait. Bon. Maintenant, c'est nécessaire de pouvoir aller plus loin aussi. Vous me parlez de marche urbaine.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, je marchais ce matin pour venir ici. Sous la pluie. Et oui, par moments, il y avait des voitures. D'autres moments, il y avait un silence. Il n'y avait plus rien qui bougeait. Bon, 9 heures le matin, un dimanche. Et par le moment, un oiseau.
Oui.
Et oui. Oups, voilà. Et là, le bruit revenait. Et je pouvais... Là, j'ai observé que je pouvais accélérer ou ralentir ma marche, ma respiration, pour ne pas être dérangé par le bruit des voitures, mieux apprécier les oiseaux.
Mm.
Et tout à coup, il y a une dame en fauteuil roulant électrique qui s'en vient sur le trottoir face à moi. Je me range et c'était pour la laisser passer. Elle ralentit, elle me regarde, elle me fait un signe de main, elle me dit bonjour et un grand sourire.
Wow! Mm.
C'est de la marche urbaine.
Oui.
Ça dépend ce qu'on veut y voir. Voilà.
Oui.
Donc, on peut marcher n'importe où. On peut marcher à n'importe quelle heure du jour. Si on se prépare un peu, si on libère le souffle, on peut être bien et apprécier la marche. Bon, c'est peut-être pas vraiment l'idéal, mais pour ceux qui peuvent pas sortir à la campagne, aller marcher dans un parc, où là, on peut retirer plus de bienfaits, bien sûr.
Alors, la marche naturelle dont on parlait tout à l'heure, lorsque nous sommes détendus, ça nous permet de mieux observer, d'être plus présent à ce qu'il y a autour de nous.
Voilà.
Donc, la respiration est importante, là.
Très importante. Oui. Il y a une résonance. Hein. On parle de résonance respiratoire. Il y a le docteur Similowski, qui est un pneumologue là, à Paris, qui a écrit plusieurs bouquins, là, entre autres sur le pouvoir de la respiration. Et pour un pneumologue, il est très avant-gardiste, là. Et qui dit justement qu'on a une résonance respiratoire, une personnalité respiratoire pour rentrer en contact avec les gens, avec la nature, avec l'environnement. Et là, c'est à nous volontairement à pouvoir maîtriser ça. Comment on organise notre respiration et nos pas pour être bien? Moi, j'ai commencé au sujet des rythmes de marche. Quoi qu'il y a, on doit y avoir une cohérence entre cette respiration-là et la marche. J'ai commencé avec des gens qui étaient atteints de maladies pulmonaires assez sévères, qui avaient de la peine à se lever d'une chaise. Alors, moins marcher.
Oui.
Et une fois qu'on libère la respiration, on a pu apprendre progressivement comment partir. Et ça, c'est valable pour toutes les activités. Je marche et je respire d'abord comme je suis là. Après, j'adapte une technique progressive. On ne doit pas imposer un rythme ou une façon de respiration à personne.
On ne peut pas imposer une technique, là.
Non,
nous sommes.
La personne doit d'abord être ce qu'elle est, puis ensuite, elle apprend, elle va vers la technique.
Elle évolue, donc.
Elle évolue. C'est une évolution.
Oui.
C'est un processus. C'est une démarche. Alors, à partir de ça, j'ai pu comprendre que chaque personne va avoir un rythme qui lui est proche, propre à lui. Sur l'inspiration, un pas, deux pas, trois pas. Sur l'expiration, les gens disent « Ah, tu dois expirer deux fois plus longtemps. » Mais on ne sait pas que les gens qui ont des maladies pulmonaires peuvent expirer pendant 30 secondes. Alors, si on leur dit d'expirer juste pendant 3, 4, 5 pas, ça ne sera pas suffisant pour eux. Ils vont pouvoir faire 10 pas sur l'expiration.
Oui.
Alors, on doit s'adapter à chacun. Mais à partir de ça, si je parle de marche afghane, par exemple, qui a été développée, créée par Edward Stiegler il y a plusieurs années, le docteur Anish du point de vue spirituel, et Sylvie Alice-Royer ici.
Ici au Québec.
Québec, qui a amené un apport et qui se poursuit maintenant, qui se développe dans toutes les régions du Québec. On a pu définir des rites plus précis. une gradation de rythme qu'on doit appliquer avec souplesse, bien sûr, selon, et je reviens à ma démarche respiratoire, selon les besoins, selon le terrain et pour une efficacité énergétique, pour être dans notre bien-être. Par exemple, si on va en montagne, là, on peut réduire les rythmes plus courts, inspirer ou expirer sur un pas, deux pas.
Oui.
Au lieu d'aller plus long. Alors, c'est une façon de s'adapter au terrain.
Est-ce qu'on le ressent ou est-ce qu'on s'impose? Et je m'explique. Est-ce que la technique, par exemple, en montagne, c'est une inspiration, deux expirations ou quoi que ce soit, une technique quelconque? Ou si, étant conscient de la marche en montagne, on attend que la respiration propre à nous-mêmes, à notre personnalité, à notre activité, viennent de façon naturelle.
Alors, si elle était libre, elle se ferait de façon naturelle.
Oui.
L'ajustement, l'équilibration entre le CO2 et l'oxygène se ferait tout naturellement.
Oui.
Le problème, c'est qu'on part déjà avec des tensions, un certain équilibre forcé.
C'est ça. Et beaucoup avec le bagage, probablement.
Beaucoup avec le bagage, en plus. Voilà. Ça ajoute déjà au poids, hein, bien sûr. Alors, c'est pour ça que si on libère notre respiration avant, qu'on a un certain rythme qu'on peut adapter. Donc, ça prend quand même un certain apprentissage aussi. Certains le font. Mais plus on sera conscient, plus on pourra le faire par nous-mêmes avec certaines connaissances, souvent basiques.
Oui.
Ça peut se faire très rapidement. Et je ne petite anecdote là-dessus. Bon, j'ai appris la marche afghane, tout ça, en France, il y a plusieurs années. J'ai habité quelques années dans les Vosges, moi, en France.
Ah oui, belle région.
J'allais marcher, toutes les routes des monastères, tout ça, c'est magnifique.
Ah oui.
Et tout à coup, il y avait un couple de vieux Vosgiens, là, solides, terre à terre.
Oui.
Ça, je les regardais marcher, puis ils me regardaient marcher, puis la dame vient me voir. Elle dit, elle me demande d'où je viens, on discute, mais elle me dit, où avez-vous appris la marche vosgienne?
Oh!
Alors, on a bien ri, hein? On a dit, la marche afghane, marche vosgienne, marche, on finit par marcher.
Et pourquoi on l'appelait la marche vosgienne?
Bien, parce que marcher comme ça naturellement là-bas, les plus vieux, c'était un rythme avec la nature qu'ils avaient développé, puis c'est magnifique, quoi.
Je reviens à votre expression, la personnalité respiratoire, là, qui doit changer beaucoup parce qu'elle est en fonction de qui on est, notre état actuel. Mais si on s'améliore, si on se détend, la personnalité respiratoire va changer, j'imagine, en fonction de notre état du moment.
Vous avez tout compris. D'où l'intérêt, par exemple, de faire Compostelle.
Oui.
Où on peut évoluer ailleurs aussi. Mais Compostelle, c'est quand même... Il y a comme des rituels là-dessus qui permettent de rencontrer des gens ou autres.
Oui.
Je suis en train d'aider une personne qui a eu une ablation d'une partie de poumon. Puis par une rééducation respiratoire, là, elle se prépare à aller à Compostelle au printemps.
Oui.
Alors, elle a un sac à dos, comme on disait, c'était déjà trop lourd pour elle. Et à force de renforcer, de libérer, de rééquilibrer, je crois qu'elle va pouvoir y aller là, et en retirer un grand, grand, grand bien-être.
Oui.
Puis il y a toujours une évolution chez chaque être humain qui se fait à travers la marche. Et je pense que tant qu'on respire, il y a toujours un potentiel qu'on peut aller chercher. Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est ça que j'ai pu un peu mesurer, moi, par les volumes pulmonaires. Là. Mm-hmm. Je vais chercher des critères, certains volumes que personne ou à peu près ne regarde. Bon, on voit la maladie, on voit des choses.
Oui.
Mais il y a deux ou trois valeurs là-dedans, là, si on sait les exploiter. Donc, la science peut aider aussi à faire une genre de médecine intégrative. Là.
Oui.
Certaines mesures peuvent aider à faire un cheminement aussi.
Vous avez un exemple peut-être d'une expérience qui a été tentée de ce côté-là où on a réussi justement à l'arrimage de ces deux-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient à l'idée?
Déjà, ma pratique à moi fait que ça se fait, et ça se fait de plus en plus. Hein. On va vers ça, cette médecine intégrative-là. C'est pas facile parce que la prévention, hein, c'est ce qui est... On en parle beaucoup, mais on n'en fait pas encore suffisamment. Mm-hmm. Il y a énormément de gens dans le réseau de la santé, des gens qui font du yoga, du zen, qui travaillent ensemble, qui se mettent ensemble. C'est en ébullition. Okay? Quand je dis « moi, j'ai fait une part du travail », mais ça ne sera qu'un petit pont parmi tant d'autres.
Oui.
Puis là, ce qu'il va falloir, c'est relier tous ces gens-là qui ont soif de ça, créer un momentum, de nouvelles activités, de modifier les professions et amener les gens à être conscients de tout ça. Je pense que tout le monde peut aider dans cette perspective.
Oui, oui, oui. Donc, il y a une évolution certaine vers cette intégration-là.
Oui, on dit que ça va mal, on regarde qu'il y a plein de choses qui ne vont pas bien, c'est vrai. Mais en même temps, simultanément, il y a tout un mouvement, une mouvance, hein, qui se crée entre les gens, qui décident, qui deviennent de plus en plus conscients, qui voient que des choses simples comme la marche, puis libérer le souffle tout simplement, peut aider à cheminer, puis oui, comme vous avez dit, à changer le monde, en commençant par soi-même, un pas à la fois.
Oui, c'est formidable. Mais en fait, il y a une expression que j'ai apprise de vous et que j'aime beaucoup. La marche et la respiration, ce sont deux frères jumeaux. J'adore. J'adore l'expression.
Oui, et des frères jumeaux quasi identiques, en fait. En plus. Ils sont tellement près un de l'autre. Mais complémentaires, en fait. Oui, parce que j'ai pu observer, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants, des jeunes bébés, des familles, et on se rend compte que le premier souffle est important, mais je pense qu'on doit chercher à cheminer jusqu'au dernier souffle.
Oui.
Il se passe des belles choses jusqu'à la toute fin.
D'un souffle à l'autre.
D'un souffle à l'autre, voilà. Et lorsque l'enfant commence ses étapes, il se retourne, il commence à ramper un peu, à faire les étapes pour se tenir debout et pour marcher, justement.
Oui.
C'est pendant ces étapes-là que toute la mécanique de la respiration se développe. Donc, la respiration se développe en même temps que l'enfant se développe sa posture pour la marche. Ça se fait simultanément et c'est comme ça jusqu'au dernier souffle.
Oui.
Alors, c'est pour ça que je dis qu'en fait, ce sont des frères jumeaux. C'est qu'ils sont inséparables, en fait. On pourrait peut-être même dire des frères siamois parce que parce qu'ils sont inséparables.
Oui, parce que si on les sépare, c'est fini.
Non. Non, regardez ce matin l'exemple que je donnais, la personne en fauteuil roulant. Il y a quelque chose qui se passe quand même.
Oui.
Elle marchait à sa façon, mais il y a toujours un potentiel à aller chercher.
Oui. Alors, respiration et marche, deux frères jumeaux. Formidable, je vous remercie, ça résume l'entrevue. Mais on va poursuivre quand même, parce qu'on a appris beaucoup de choses ce matin. Et là, je me pose une autre question. Est-ce qu'on peut se pratiquer? Est-ce qu'il y a des exercices qui nous aident à apprendre comment bien marcher et respirer?
Oui. Alors, c'est déjà, comment bien respirer, peut-être quelque chose de simple, s'écouter et ne pas forcer pour inspirer. Déjà là, on peut observer un changement. Au lieu de forcer par le nez, on laisse la chose se faire. On sent, en visualisant le souffle, ça peut déjà aller mieux. Penser, par exemple, lorsqu'on se penche vers l'avant, à aller respirer par le dos, par le bas du dos. C'est déjà des choses simples.
Respirer par le bas du dos.
Oui, on imagine le poumon qui descend dans le dos, tout simplement.
Ah.
Et le bas du dos s'élargit. On peut le sentir assez facilement, ça. Si on veut le sentir mieux, si on est devant une table, tiens, devant l'ordinateur, soyons concrets.
Ah oui.
Bon, voilà. Alors, on appuie les coudes sur la table, on dépose notre tête sur nos mains. Donc, on se trouve être penché à 45 degrés à peu près. Et là, on fait juste respirer doucement et sentir le poumon qui peut descendre tout doucement dans le dos, sans forcer. Jamais forcer.
Oui.
Par contre, si on parle de se poser, là, c'est une évaluation qu'on peut faire coucher. On peut mettre des coussins sous nos poignets, par exemple.
OK.
Un coussin sous le sacrum.
Oui.
Il y a donc c'est toutes sortes de petites techniques très simples, tenir des crayons dans nos mains en marchant.
Oui.
Bon, ça a l'air un peu banal.
Oui.
Je conseille aux gens, et je n'ai pas peur des résultats, on prend deux crayons ou deux abaisse-langues, qui serait encore mieux. On les place quatre doigts sur un côté, le pouce de l'autre. on s'observe marcher, puis on les place, on marche, et on observe après. Les gens vont être surpris. Les bras se mettent à bouger plus facilement, le souffle se libère. C'est assez impressionnant, bon, pour expliquer là, neurologiquement ce qui se passe, mais c'est vraiment quelque chose de simple.
Oui. Est-ce que, parlant d'exercice, est-ce qu'il y a des formations qui se donnent? Est-ce qu'il y a des cliniques? Est-ce qu'on peut, justement, suivre des cours en quelque part?
Bon, alors, c'est vraiment là en développement de plus en plus. Bon, maintenant, c'est sûr que moi, je forme des gens dans plusieurs régions du Québec qui pratiquent plus ou moins selon le contexte. Là. C'est surtout en milieu hospitalier ici, pour des programmes qui tiennent. Personnellement, là, on commence à développer des programmes, soit au niveau universitaire ou collégial aussi. Et on va de plus en plus. Je fais des conférences un peu partout dans les principale ville du Québec. On fait des formations grand public aussi populaires pour que les gens puissent se prendre en main. Il y a des gens qui viennent en famille.
Oui,
des gens qui viennent en famille pour apprendre. À Rimouski, bon, où j'habite, je travaille avec l'association Respire, qui est un organisme de ressourcement spirituel, mais qui est ouvert à toutes les spiritualités. Et j'y anime là, de plus en plus des ateliers pour apprendre à libérer la respiration. Et on assure aussi un petit suivi individuel. Et à ce moment-là, dans ce cadre-là, ben, c'est fait bénévolement. Il y a toujours le site de Marche Afghane Québec, donné qu'on parle de la marche. Voilà. Et sinon, bon, on peut me contacter via mon site et je pourrai, selon les besoins de chacun, peut-être les orienter vers d'autres personnes.
On mettra votre site sur le site du jemarchepartout.com.
Parfait. www.pneumacor.com.
Pneuma et corps,
voilà. Donc, c'est le souffle et le corps qui marche, en fait. Et bien sûr, des bouquins, celui que vous avez en main, là, le fameux bouquin de James Nestor, « Respirer ».
Qui est très bon.
Qui est très, très bon, qui fait le tour de la question, qui va assez profondément, mais qui au moins peut susciter un questionnement, des interrogations, des échanges. On a besoin de faire ça, là, échanger là-dessus. Il y a beaucoup de techniques sur le web, dans des livres, des contradictions.
Bien, c'est ça,
Et tout peut s'expliquer si on prend le temps d'échanger, de communiquer. Et je pense que c'est déjà là, remettre un petit peu de cohérence là-dedans, je crois que ça peut aider énormément.
Oui. En terminant, il nous reste une minute ou deux. J'aimerais reprendre votre expression de mouvance. Là, il se passe quelque chose au Québec, là, au niveau de l'évolution, de la prise de conscience, de la responsabilisation. J'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus.
Vous savez que quand j'ai commencé mon cours, moi, j'ai fait une petite observation dans un département et on m'a dit: tu peux observer, mais ce ne sont pas vous, ce ne sont pas les inhalothérapeutes qui vont faire ça. Ça surprend un jeune étudiant. Presque 50 ans plus tard, j'enseigne à ces professionnels-là maintenant, mais maintenant, c'est en pleine collaboration en plus.
Oui.
Alors, il y a des besoins, on les voit là, les besoins sont criants. Il y a de plus en plus de problèmes respiratoires aigus. On pense à la COVID longue, on pense à la personne, le syndrome de la personne raide, entre autres, etc., l'apnée de sommeil. Alors, les gens là, n'ont plus le choix. Les gens veulent travailler ensemble. Souvent, ils manquent de ponts, de liens. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire et que vous essayez de faire aussi magnifiquement avec votre émission. Mais on a besoin, le besoin est là, les gens se rencontrent, on discute, il y a des projets là, qui sont déjà en route, puis je crois qu'il faut potentialiser là-dedans. C'est une question, comme on dit, de souffle et de vie, mais pour les générations futures aussi.
Alors, je répète votre très belle formule, respiration et marche, deux frères jumeaux, et je vous laisse le mot de la fin, une pensée en terminant, un conseil, une observation, un souhait.
Respirons, marchons de mieux en mieux.
Tout est dit.
Tout simplement.
Benoît, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui et au grand plaisir de vous revoir en quelque part sur les sentiers du Québec.
Je l'espère moi aussi. Alors, encore une fois, merci et en marche.
En marche. C'est de nouveau le temps de notre chronique « Le corps en marche » en compagnie de Michel Cousinat-Baudet, ostéopathe et entraîneur spécialiste en posture et bien-être. Alors, Michel, de quoi allez-vous nous parler cette semaine?
Bonjour, Denis. Cette semaine, je vais vous démontrer comment une marche de courte durée, pratiquée régulièrement, peut grandement améliorer votre santé physique et mentale. Il s'agit en fait d'une marche rapide de 12 minutes seulement. Une option très pratique pour les personnes aux prises avec des horaires chargés qui ont de la difficulté à trouver le temps pour faire de l'exercice.
Dites-moi, Michel, 12 minutes, ça peut paraître peu alors que l'on recommande souvent de marcher au moins 30 minutes pour en retirer tous les bienfaits.
Bien sûr, 30 minutes d'activité physique, c'est idéal. Mais ce que j'aimerais que les auditeurs retiennent aujourd'hui, c'est qu'une session de marche plus courte, à un rythme rapide, soutenu, entraîne des bénéfices importants et que cette approche est relativement facile à intégrer dans le quotidien. Au lieu de viser la perfection, commençons par ce qui est réaliste et accessible ici, maintenant. D'ailleurs, plusieurs études récentes démontrent la validité de cette technique. Celle qui m'a le plus marquée, elle a été menée en 2022 par le Massachusetts General Hospital. J'en ai pris connaissance lorsque je traversais une période particulièrement difficile. À ce moment-là, l'idée de sortir marcher me paraissait impossible. Entre la charge mentale, la fatigue, le stress, l'idée de bouger semblait plus épuisante qu'autre chose.
Ben effectivement, c'est bien connu que le stress et la fatigue ont un impact parfois important sur notre motivation et notre physique.
Tout à fait. Le stress chronique, ça peut provoquer de l'inflammation, affaiblir le système immunitaire. Ça augmente également le risque de maladies cardiaques. Puis pourtant, c'est justement dans ces moments de fatigue émotionnelle et de stress que nous devrions le plus bouger. Pour moi, le déclic, ça a été de réaliser que j'avais pas besoin de marcher longtemps pour ressentir les bienfaits. En lisant cette étude, j'ai compris que juste 12 minutes de marche rapide suffisent pour déclencher des effets bénéfiques dans notre corps. Et 12 minutes, ça me semblait faisable.
Formidable.
Donc, dans cette étude, les chercheurs ont suivi 411 hommes et femmes d'âge moyen et ont analysé 588 substances présentes dans leur sang avant et après une marche de courte durée. Ce qui m'a frappé, c'est que plus de 80 % des marqueurs avaient changé pour le mieux. Comme quoi, pas besoin de courir un marathon pour faire du bien à son corps.
Ou non. Alors, dites-moi, quels changements ont-ils observé?
Parmi les substances qui ont le plus changé, il y avait le glutamate. C'est une molécule qu'on a tous dans notre corps. Elle est libérée quand on vit du stress ou qu'on est exposé à des toxines. Mais en trop grande quantité, le glutamate a été associé à plusieurs problèmes de santé, comme le diabète, les maladies du cœur et même une diminution du volume du cerveau.
En somme, un excès de glutamate, c'est pas une bonne nouvelle.
Exactement. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il suffit de 12 minutes de marche rapide pour faire une vraie différence. L'étude a montré qu'en aussi peu de temps, les niveaux de glutamate dans le corps pouvaient baisser de 29 %. C'est énorme.
Oui.
Et c'est pas tout. Des marqueurs liés aux maladies du foie et au diabète diminuaient eux aussi, pendant qu'un autre composé qui aide à brûler les graisses augmentait de 33 %. Tout ça juste en marchant un peu plus vite pendant 12 minutes.
Tout ça en seulement 12 minutes?
Oui, oui, oui. Et comme le résume Edward Cooper, l'auteur de l'étude, ces 12 petites minutes ont un impact sur des fonctions essentielles de notre corps, comme la résistance à l'insuline, le stress oxydatif, l'inflammation et même la longévité. Autrement dit, marcher un peu chaque jour peut vraiment aider à vivre mieux et plus longtemps.
Oh, ça c'est intéressant. Et c'est impressionnant.
Effectivement.
Mais si j'ai bien compris, il faut accélérer le pas.
Voilà. L'étude précise qu'il faut que la marche soit vigoureuse. Donc, un bon rythme, assez rapide pour faire battre le cœur plus fort et nous laisser légèrement essouffler. Donc, on doit sentir qu'on bouge vraiment, pas juste flâner tranquillement. Là.
Alors, on oublie la balade tranquille en regardant le téléphone.
Oui, absolument. Il faut un effort soutenu en restant concentré. Pas besoin de se pousser à bout. L'idée, c'est de garder un bon rythme. Un repère simple, ça serait de viser au moins 100 pas par minute. Mm-hmm. D'ailleurs, si vous sortez votre téléphone, servez-vous-en pour faire le test. Mettez un minuteur à une minute, puis comptez vos pas. Si vous êtes en dessous de 100 pas minutes, essayez d'accélérer un peu. Pas besoin de courir, juste assez pour sentir que le corps s'active.
Et pour ceux qui ont du mal à marcher un peu plus vite, non?
Alors, je suggérerais d'intégrer de courts intervalles, donc des petites poussées d'accélération. Par exemple, on peut marcher plus vite pendant 15, 30 ou 60 secondes, puis revenir à un rythme normal pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, on recommence.
Ah, j'aime bien cette idée de mini-intervalle. Très intéressant. Mm-hmm. Et la posture dans tout ça?
Ah oui, c'est sûr qu'une bonne posture, ça permet d'optimiser la marche. Donc, pensez à garder le dos droit, les épaules détendues, les bras en mouvement. Nous avons parlé de posture et de démarche en début de saison. Donc, vous pouvez réécouter ces chroniques sur le site jemarchepartout.com.
Et voilà. Bon, pour le corps, ça y est. Qu'en est-il du mental?
Mais même une marche de 10 minutes peut faire du bien à notre cerveau. Une étude publiée en 2018 dans la revue Health Promotion Perspective a montré que ça aide à diminuer la fatigue mentale. Cela vient en partie de la libération de neurotransmetteurs, comme les endorphines et la sérotonine, qu'on appelle souvent les hormones de bonheur. Elles aident à gérer l'humeur et à diminuer le stress. Autrement dit, bouger active naturellement nos mécanismes internes de bien-être.
Donc, si je suis stressé ou vidé, une petite marche rapide peut m'aider à me sentir mieux.
Absolument. Et ce n'est pas tout. Marcher stimule aussi notre cerveau. Donc, une marche légère de 15 minutes à l'extérieur améliore la concentration, la rapidité mentale et l'activité cérébrale. C'est ce que des chercheurs de l'Institut de cardiologie ici à Montréal ont observé dans une étude publiée en 2023. Ce qui est intéressant, c'est que ces effets étaient visibles uniquement après une marche à l'extérieur. Donc, probablement grâce à la combinaison du mouvement et du contact avec la nature.
Ah oui, ben c'est intéressant encore une fois. Une si courte marche peut vraiment avoir cet effet-là.
Oui, et c'est très concret. Les chercheurs ont mesuré l'activité du cerveau de jeunes adultes avec un électroencéphalogramme avant et après avoir marché, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et le résultat est clair. Ceux qui avaient marché dehors réagissaient plus vite. Leur cerveau était beaucoup plus actif, surtout dans les zones liées à l'attention et à la mémoire de travail.
Donc, ce n'est pas juste l'exercice physique comme tel, mais aussi le fait d'être dehors qui compte.
Exactement. Ah. Le combo mouvement et plein air, même pour seulement 15 minutes, suffit à rebooster le cerveau. C'est une petite pause, toute simple, mais super efficace pour retrouver la clarté, surtout quand on se sent fatigué ou dispersé.
Donc, si j'ai un coup de mou au boulot, au lieu de prendre un café, je devrais aller marcher.
C'est exactement ce que je recommande. Pour revenir au corps, j'ajouterais qu'une marche rapide, ça fait aussi beaucoup de bien à notre cœur. Et pas besoin d'en faire beaucoup là, pour que ça ait un vrai impact. Pour quelqu'un qui est sédentaire, ajouter 10 à 15 minutes de marche active par jour, ça peut déjà aider à protéger la santé cardiovasculaire. Une étude publiée en 2022 dans The Journal of American Medical Association a montré que ce petit effort quotidien, donc une activité modérée à vigoureuse, comme une marche rapide, permet de réduire le risque de mortalité prématurée de 7 %. Et 7 %, c'est énorme. Mm-hmm. Surtout quand on pense que c'est un geste si simple. Une marche par jour et on prend soin de son cœur. Doucement, mais sûrement.
C'est considérable quand même pour seulement 10 à 15 minutes par jour.
Oui. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que plus on marche, plus les bienfaits augmentent. Donc, chez ceux qui marchaient 20 à 30 minutes par jour, le risque de mortalité diminuait encore plus. Donc, jusqu'à 13 %, parfois même 17 %. En moyenne, on gagne environ 15 % en espérance de vie. Juste en bougeant un peu plus chaque jour. C'est quand même pas mal pour une habitude aussi simple et accessible.
Et ça s'adresse surtout aux personnes qui ne bougent pas beaucoup déjà, c'est ça?
Oui, oui, oui. Les bienfaits sont encore plus marqués chez les personnes sédentaires. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être un grand sportif pour faire une vraie différence sur sa santé. Même une petite marche rapide chaque jour peut littéralement prolonger la vie.
Alors, c'est une motivation en or.
Oui, et c'est gratuit. Accessible, sans effet secondaire. Mais sauf peut-être un peu de bonne humeur en prime, là.
Bon, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits?
Plutôt, je parlais de l'effet là, d'une marche de 12 minutes sur le taux de sucre dans le sang, surtout en lien avec la résistance à l'insuline. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de découvrir qu'une toute petite marche après un repas pouvait aussi faire une vraie différence. Une étude publiée en 2022 dans Sports Medicine a montré que marcher seulement 2 à 5 minutes après avoir mangé, ça aide à réduire les pics de glycémie, donc d'éviter d'avoir des hausses soudaines de sucre dans le sang. Puis ça, c'est une excellente nouvelle pour les personnes à risque de diabète ou qui ont de la résistance à l'insuline. Et pas besoin de marcher vite ou longtemps, juste une petite marche tranquille, c'est suffisant. En fait, intégrer un mini-moment de mouvement après le repas, ce serait un réflexe de santé super simple, efficace, pour mieux gérer son métabolisme.
Donc finalement, Michel, une marche courte, c'est presque un médicament naturel.
Presque, oui. Les bienfaits sont nombreux et quand même incroyables.
Eh bien, Michel, vous avez donné de bons arguments à ceux qui disent ne pas avoir le temps de bouger.
C'est souvent ce qu'on se dit, mais tout le monde a un petit 12 minutes. Là. Il suffit juste de planifier un parcours rapide à partir de chez soi. Si la journée est trop chargée, bien, on peut marcher le soir après le repas ou le matin avant le petit déjeuner.
Et il y en a, Michel, qui ont plus de temps.
Ah bien, bonne nouvelle! En fait, les études montrent que plusieurs courtes promenades sont encore plus efficaces pour réduire la pression artérielle versus une longue marche.
Donc, plus on fractionne la marche, mieux c'est?
Exactement. Et pour finir, j'aurais un message important. Si vous traversez une période difficile, bouger, ça peut vraiment vous aider. Fait que même quand vous êtes épuisé, marcher, même lentement, ça reste bénéfique. Alors, commencez doucement et surtout, commencez.
C'est un superbe message, Michel. 12 minutes de marche par jour peuvent transformer notre santé. Alors, pourquoi ne pas essayer aujourd'hui?
Absolument. Enfilez vos chaussures et profitez de ces 12 minutes pour vous faire du bien. Votre corps vous en remerciera.
Et nous vous remercions, Michel, et à très bientôt pour une nouvelle chronique, Le corps en marche.
À bientôt, Denis.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier nos invités Benoît Tremblay et Michel Cousinat-Baudet. Merci également à Charles Saint-Laurent-Carrier à la technique et au montage. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Vous pouvez également y laisser suggestions et commentaires sur l'émission. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de Michel Jourdan et Jacques Vigne. Marcher, c'est retrouver ce rythme qui est celui de l'univers, celui de notre respiration, celui de notre cœur. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.